Dupont, le matin. Avec Paul-Raphaël Charon. Arrêtez de vivre dans le déni. On le sait que vous aimez l'émission. Même toi, Guillaume. FM 93.
h 29 minutes. Bon vendredi, nous sommes le 23 juillet 2021 et ce soir, dans la Ligue nationale de hockey, c'est le... comment on appelle ça? Vest repêchage amateur?
Oui. Ce soir, ou repêchage d'entrée. En anglais, c'est entry draft.
Entry draft.
Repêchage d'entrée.
Repêchage, donc, dans la Ligue nationale, et c'est dans un contexte un peu particulier, parce que là, ben, dans plusieurs ligues, l'année dernière, ça n'a pas joué. Je pense que c'est dans la Ligue de l'Ontario, notamment, là, ouais, que ça n'a pas joué du
dans
tout.
Dans l'Ouest, ça jouait un peu, Québec un peu.
Voyager aussi, c'était compliqué. Ça fait que là, on va s'intéresser ce matin à une des jobs qui est peut-être méconnue dans une organisation de hockey professionnel, et c'est celle de dépisteur. Notre prochain invité, Michel Boucher, c'est ce qu'il fait dans la vie, il est dépisteur pour le Lightning de Tampa Bay au Québec. Bonjour Michel.
Bonjour, bon matin vous autres.
Hey, d'abord Michel, félicitations pour la Coupe Stanley quand même. C'est quelque chose de travailler pour une organisation qui a autant de succès que le Lightning de Tampa Bay.
C'est absolument extraordinaire, puis ça montre aussi que ça prend beaucoup de patience. Ça prend de la chance et 8 à 10 ans à bâtir une équipe championne. Donc, c'est beaucoup de travail, mais là, actuellement, on vit des moments assez extraordinaires et fantastiques, là, les gens qui y travaillent dans l'organisation.
Toi, ça fait combien de temps que tu es avec le Lightning?
J'ai ma 12e année avec le Lightning. Je suis arrivé en même temps que Steve Eisenman et Julien Brisebois.
Donc, ce qui est assez exceptionnel dans ton travail, parce que toi, on s'entend, quand je dis que des fois, c'est un bout un peu méconnu d'une organisation de hockey, le travail des dépisteurs, on peut dire que toi, t'as quand même vraiment, là, depuis 12 ans, participé à la construction de cette équipe-là. Le succès aujourd'hui du Lightning de Tampa Bay, il passe beaucoup par votre travail.
Ça, définitivement. Je veux dire, l'analogie, c'est... vous savez, parfois, on voit les photos des gars qui travaillent sur le bord des routes, là, puis... il y en a un qui est dans le fond du pit de sable avec sa pelle, puis les autres regardent avec les chapeaux blancs. On est pas mal su dans le fond du pit de sable qui tend son sable.
Ouais. Comment ça a été dans la dernière année, essayer d'observer des joueurs alors que c'est pas toutes les ligues qui jouaient? Toi, tu es basé au Québec, donc j'imagine que ça devait être quand même pas si mal, mais même voyager entre le Canada et les États-Unis, c'était pas évident.
C'est tellement différent cette année. Mais en fait, il faut revenir à ce que le travail est devenu au fil des années. Il y a peut-être 20 ans, 30 ans, il y avait genre 5 ou 6 gars qui travaillaient pour une organisation et ils allaient partout dans le monde. Cette structure-là a été changée il y a, je dirais, peut-être 12, 13, 15 ans. Là, on est maintenant responsable d'un secteur du monde. Alors moi, je suis responsable du Québec et des Maritimes. Donc, moi, mes voyages, c'est Québec et Maritimes. Occasionnellement, je vais à Tampa pour des meetings, puis je fais également le championnat mondial des moins de 17 ans qui peut être habituellement soit dans l'Est ou dans l'Ouest du Canada. Donc, moi, je voyage un peu moins que les autres, mais ceux qui voyagent plus souvent, il y en a 2 ou 3, cette année, sont pas allés en Europe, sauf en fin d'année, puis ils n'ont pas voyagé aux États-Unis vraiment. C'était excessivement difficile de voyager cette année. Donc, beaucoup de vidéos, beaucoup de téléphones et de courriels avec les entraîneurs, les thérapeutes, les directeurs généraux d'équipe pour essayer de connaître un peu l'historique, l'histoire d'un joueur de hockey qui actuellement n'a pas joué cette année dans le fond.
Hier, en conférence de presse, j'entendais Trevor Timmons, qui est directeur justement du dépistage, du recrutement chez le Canadien, puis il disait ça va être un repêchage bizarre parce que justement il y a des ligues qui n'ont pas joué, mais il dit on pense qu'il y a quelques joueurs qui pourraient se faufiler entre les cracks, puis on pourrait être capable de frapper quelques coups de circuit. À quel point vous commencez à observer les joueurs jeunes? Nous, on a l'impression que direct à l'année d'éligibilité, là, tu regardes un peu et tu choisis meilleur. Mais à quel point quand est-ce que vous commencez à observer les joueurs dans leur processus de développement?
Moi, ça dépend des organisations et du système qu'ils mettent en place. Nous, chez nous, on commence à les regarder lorsqu'ils ont entre 14 et 15 ans. De telle sorte que j'ai des rapports sur ces gars-là à leur saison de 15 ans, celle de 16 ans, puis à 17 ans. Donc, chez nous, on a comme 3 ans d'observation. C'est sûr que c'est assez préliminaire au début, genre à 14-15 ans, il y a 5 et 7, 135 livres, patin incorrect, manque de force, et ainsi de suite. Mais on aime beaucoup ses habiletés, puis comment il réfléchit. Là, à 15 ans, je retourne le voir 2, 3, 4 matchs. Il n'a pas changé, mais il est rendu à 5 et 8, 5 et 9, peu importe. Et c'est à ce moment-là, sur une plus longue période de temps, les chances de ne pas commettre d'erreurs sont bien meilleures. Et c'est okay. ça qui est important, okay. parce qu'on repêche, dans le fond, juste cette ronde-là, et on regarde à travers le monde entier.
Ça arrive-tu des fois quand il y a des exceptionnels qui se présentent au tournoi? Puis oui, ici à Québec, moi, il me semble que j'ai déjà entendu dire qu'il y a des dépisteurs des fois au tournoi. Puis oui.
Moi, je j'y vais pas. Je me contente de lire ce que les journalistes écrivent, qui sont les 10 ou les 20 meilleurs joueurs qui y passent.
Ouais, okay.
Par expérience des années passées, habituellement, au tournoi Pee-Wee, les meilleurs sont tout petits. Ils sont rapides et intelligents. Mm-hmm. Et puis, quand tu regardes les 10, 15 gars, puis là, je garde ça en filière chez nous, trop souvent, ces gars-là, pour nous autres, ils grandissent pas beaucoup. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi, là, mais ils grandissent pas beaucoup. Puis, ils sont très peu nombreux de ce groupe-là qui se ramassent à être repêchés tôt dans la Ligue nationale et d'y jouer plus tard. C'est plutôt les grands qui sont plus clumsy, qui sont plus croche un peu sur leur patin, qui, eux, se développent avec la force parce qu'ils ont déjà le physique.
Mm-hmm. À quel point, d'ailleurs, ça, l'aspect physique, la charpente des jeunes que vous repêchez est importante. Tu as quand même côtoyé un certain Martin Saint-Louis dans l'organisation du Lightning. Jamais repêché et finalement un joueur vedette, joueur légendaire. On voit des fois d'autres jeunes qui reculent au repêchage aussi parce qu'ils sont pas gros. Je pense à un Cole Caulfield avec Montréal. On pensait qu'il sortirait plus tôt. Finalement, ça va bien, ces choses. À quel point vraiment vous vous basez sur le physique d'un joueur pour déterminer où est-ce qu'il faut le repêcher?
Plus ou moins, dans le sens où quand ils sont bons, ils sont bons.
Okay.
Sauf que le petit joueur doit faire ses preuves plus souvent sur 2, 3, 4 ans, tandis que le joueur plus imposant physiquement peut arriver à 17 ans, puis là, ça arrive au moment où son niveau de force est rendu, ne lui nuit plus, c'est-à-dire qu'il est rendu assez fort pour que son patin paraisse bien, puis que physiquement, il soit capable de s'imposer. Tandis que le petit, ça prend un peu plus de temps. Moi, je me rappelle, je travaillais avec l'équipe nationale du Canada, puis j'allais voir le Vermont, puis mm-hmm. Perrin et Saint-Louis étaient là, puis dans ce temps-là, je travaillais pas avec aucune équipe professionnelle, mais mes copains étaient là, j'avais appelé mes copains, puis ils m'avaient dit, non, il est trop petit, on le prendra pas chez nous, nos dépisteurs de cette région-là veulent pas qu'on le prenne. C'est comme, et en même temps, tu ne tiens pas non plus à avoir beaucoup de petits joueurs dans ton organisation, parce que quand arrivent les rigueurs des séries éliminatoires, c'est beaucoup plus difficile pour eux autres. Ouais. Puis ils n'ont, dans ce temps-là, ces gars-là n'ont qu'un rôle, c'est de marquer des buts ou de produire offensivement. Ce qui fait que le joueur plus gros de 5 et 11, 6 pieds, 6 pieds 1, 6 pieds 2, a plus de chances de se ramasser sur une troisième et quatrième ligne que le petit gars que le jeune homme de 5 et 8, ouais. 5 et 9, ouais. qui lui doit absolument performer. Donc, c'est pour ça que dans la vision des gens à l'extérieur, ils pensent qu'on les veut pas ou on est juste un peu plus difficile avec eux autres parce qu'ils doivent nous prouver qu'ils vont pouvoir produire dans la Ligue nationale. Puis c'était le cas de Caulfield.
Ça démontre aussi quand même, les exemples qu'on donne sont intéressants parce que ça démontre à quel point il y a une part qui vous appartient, c'est d'observer le joueur, de l'évaluer, de regarder sa courbe de progression, tout ça. Mais il y a une part aussi qui appartient au joueur. C'est quoi les efforts qu'il va mettre dans son développement? Puis comment? Il y a même à la rigueur une part de chance là-dedans. Qu'est-ce qui va arriver avec ce joueur-là? C'est un peu ingrat parce que souvent les gens vont être rapides à critiquer un tel choix au repêchage, puis à critiquer le recrutement, alors que il y en a maudit des joueurs qui peuvent être bons, qui peuvent avoir du potentiel à grandeur de l'Amérique du Nord puis de l'Europe.
Qui se développent plus tard aussi.
Oui, c'est ça.
Oui, il y a ça, mais tu sais, si le petit gars à 14 ans, à 15 ans, tu le connais, tu le rencontres, tu le regardes, puis il travaille pas fort, il y a des grosses chances qu'il travaille jamais fort de sa vie, même s'il y a beaucoup de talent. Ce que tu es à 15 ans, tu l'es à 25, tu l'es à 35. Fait que, nous autres, ce qu'on regarde, c'est le coup de patin peut s'améliorer, les habiletés peuvent s'améliorer, mais si dans ton sens de hockey, dans la tête, puis ton cœur pour travailler très fort ne sont pas présents, il y a de fortes chances que tu ne passeras jamais. Donc, dans un monde idéal, c'est tu joues au hockey, t'as ça dans ta tête, t'anticipes, ton cœur travaille très fort, t'es prêt à souffrir, genre Yannick Gourde, et puis le reste, ça vient. Habituellement, c'est plus jeune, c'est plus court. Ces gens à petit gabarit, très souvent, ils sont très, très habiles. Ils sont très rapides, très quick. S'ils ont ce qu'il y a dans la tête et dans le cœur dans la bonne direction, il y a des grosses, grosses chances que si on leur donne une chance, ils vont passer au travers.
Je veux revenir sur les difficultés que vous avez eues à travailler cette année, parce que la plupart de la saison, vous n'étiez pas présent dans les arénas, donc vous regardiez les matchs sur un écran d'ordinateur ou sur une télé. Qu'est-ce qui est important de savoir pour les dépisteurs qu'on voit pas à la télé ou sur un écran d'ordinateur de certains joueurs que vous suivez?
Personnellement, j'ai pas autant détesté ça que ce que j'ai entendu de la part de certains dépisteurs à travers les médias, de regarder ça sur l'écran. C'est certain que si le jeune qui est éligible au repêchage joue sur une quatrième ligne, parce que l'équipe est bien munie en termes de talent, puis qu'il ne joue pas sur le jeu de puissance, c'est plus difficile à le voir parce qu'il sera pas souvent dans l'écran de télévision ou dans l'écran d'ordinateur. Mais s'il est dans l'écran d'ordinateur régulièrement, c'est qu'il est dans le match. Mm-hmm. Il s'implique. Là, tu le vois, tu peux jeter une attention particulière. S'il ne joue pas, il y a très peu de chances que ton patron accepte sur la base de quelques rapports où tu écris « Il était sa quatrième ligne, il a joué l'équivalent de 7-8 minutes, on devrait le repêcher. » Il y a peu de chances. Il y avait plus de chances dans le temps de repêcher ces gars-là lorsqu'il y avait 9 et 10 rondes. On retourne genre 10-15 ans en arrière. Là. Mm-hmm. Mais à cette ronde, les équipes prennent très, très peu de chances.
OK. Vous avez, si j'ai bien lu, au moment où on se parle, 4 choix de repêchage, le Lightning, parce que vous avez probablement sacrifié quelques choix pour construire une équipe championne. Puis votre premier choix...
On a plus de choix que ça.
Ah oui?
Sauf qu'on repêche dans 4 rondes seulement.
Ouais, OK. Ah oui, c'est ça. Il y en a 3 en 7e ronde. Excuse-moi, c'est mon erreur.
On est rendu à 4, je pense, avec Goodrow qu'on a envoyé. On est rendu à 4 choix de 7e. Donc, ils ont confiance en nous autres de... Ouais. De faire un miracle quand ça arrive.
C'est chiant de dire à ces dépisteurs, par exemple, OK, là, on est allé chercher des choix. Ils sont tous en 7e ronde, par exemple. Fait que trompez-vous pas.
mais c'est ça, parce que votre premier choix, c'est le dernier choix de la 3e ronde. Qu'est-ce que ça implique pour le travail des dépisteurs? C'est-tu plus d'ouvrage ou vous avez moins de pression parce qu'il y a moins de risque de se tromper rendu là?
Bon, la pression, c'est nous qui nous la mettons. Là. Tu veux dire, on veut tous réussir, puis. On sait que fin de troisième, le pourcentage de chances qu'un joueur en fin de troisième, début quatrième, joue de façon régulière. Alors, un top 6 en avant, top 4 en arrière, un premier gardien de but. Le pourcentage est à peu près de 6 joueurs sur 31 repêchés. Donc, un cinquième, 15 %.
OK.
15 %. Donc, écoute, qui sont ces 6 joueurs-là sur les 31 qui vont être repêchés? C'est ça qui fait partie du défi qu'on a rencontré. Puis pour ça, ben c'est mieux quand tu connais le gars depuis une couple d'années, puis tu connais l'entourage, puis tu sais que tu vas entendre des choses honnêtes de la part des entraîneurs et des directeurs généraux des équipes sur le petit gars, sur sa vie, sur son talent de hockey.
Comment un dépisteur réagit quand son directeur gérant échange un premier choix? Parce que pour un dépisteur, c'est le fun de mettre dans son CV. Oui, c'est moi qui ai suggéré un tel en première ronde, puis ils l'ont choisi.
Peut-être que ça peut dépendre des dépisteurs. Moi, ça me perturbe pas d'aucune façon, parce que si tu veux gagner, il est fort probable qu'il va te manquer un joueur ou deux pour aller chercher. Puis si tu as la chance de gagner une Coupe Stanley, puis il donne le premier choix, ça ne dérange pas. T'as la chance. Ils sont allés chez Coleman, ils sont allés chez Goodrow. On a envoyé des cours qu'on avait repêchés en première ronde. On a envoyé les premiers choix, deuxième choix. Puis, sincèrement, ça ne dérange pas. Le défi est toujours là. Okay. On est capable de trouver un autre Brandon Point en troisième, un autre Cerulean en troisième, un autre Palat en septième. C'est ça le défi. Puis il est bien le fun comme ça, le défi.
Palat en septième, Michel, il joue avec les Voltigeurs de Drummondville. C'était dans ton secteur,
ouais.
Ça?
Oui.
C'est-tu toi qui as levé la main pour dire à lui?
Moi, je l'avais mis sur ma liste, puis j'avais défendu. Maintenant, le plan de l'organisation dans le temps était plus de peut-être attendre à la fin du repêchage, puis l'inviter. Okay. Mais j'avais de mon côté, cette année-là, à la table de repêchage, Guy Boucher, qui avait été son entraîneur.
OK.
Alors, quand on est arrivé plus tard dans le repêchage, j'en ai parlé avec Guy. Guy a appelé ses copains à Drummondville, et puis on est retourner voir juste avant que la septième ronde se termine, on est retourné voir mon patron, M. Murray, puis M. Eisenman. Puis on a dit, vraiment, on pense qu'on doit le repêcher pour telle raison. Il est sur ma liste, sauf que là, on regarde qu'on le repêchera pas. Puis M. Eisenman, avec Julien Brisebois, ils ont trouvé le quatrième choix avant la fin de la septième ronde pour qu'on puisse prendre Palat. ça, c'est une belle histoire. C'est l'histoire André Palat. Hein.
Mais en même temps, je regarde, là, tu sais, puis André Palat, ça jouait dans le Q. Kuchera va jouer avec les Remparts. Yannick Gourde, Mathieu Joseph. Crème, il y en a eu quand même des Québécois et des gars de la Ligue d'hockey junior majeur qui ont été repêchés par le Lightning et Tampa Bay. Ça veut dire que quelque part, tu as fait ton travail comme il faut.
Je pense que ça a bien été au fil des 12 dernières années. Puis l'ouverture d'esprit des gens avec qui je travaille a été très importante sur ce niveau-là.
Mais d'ailleurs, tu es un Québécois dans l'organisation du Lightning de Tampa Bay. Il y a beaucoup de Québécois autant sur la glace que dans l'état-major. Tu réagis comment quand tu vois là, les débats et les chicanes chez le Canadien? Là, le dernier Québécois s'en irait, il n'y aurait pas de Québécois à Montréal. Est-ce que tu as un avis là-dessus?
J'ai travaillé 4 ans pour le Canadien en temps partiel. Moi, j'ai été directeur d'école une bonne partie de ma vie, de cégep et d'école secondaire. Donc, j'ai travaillé de façon à temps partiel pour le Canadien 4 ans. Donc, j'ai travaillé avec Trevor Timmons. Puis, je pense que le Canadien, comme il le dit souvent, il regarde tout le monde. Puis, s'il parle français et québécois, tant mieux. Mais l'important pour eux, puis comme toutes les équipes, c'est bâtir la meilleure équipe possible.
Mm-hmm. Okay. On l'a mentionné, il y a plusieurs Québécois dans la formation du Lightning. Est-ce que ça aide à monter en grade? Y a-t-il un genre de hiérarchie chez les dépisteurs? Tu sais, le dépisteur qui suggère le plus de gars qui ont été repêchés, y a-t-il plus d'importance qu'un autre qui a jamais fait passer ses joueurs?
C'est une bonne question. Je me suis souvent posé la question. Tu sais, des fois, des dépisteurs sont quelque part pendant 10 ans, puis on n'a jamais repêché dans leur pays, mais je pense que son travail est aussi bon que le mien. Si on n'a jamais repêché, puis tu regardes les joueurs repêchés dans les années précédentes, puis après ceux qu'on a pris, les gars de ce pays-là ne jouent pas. Ben, il a fait son travail parce qu'il a vraiment donné la bonne information à l'organisation pour pas qu'on repêche les gars qui auraient pu être repêchés, puis qui l'ont été par d'autres qui font pas la Ligue nationale. Donc, c'est une bonne question, mais non, puis il n'y a pas de hiérarchie. Puis je ne vends pas plus cher parce que Palat ou Cédric Paquette ou Mathieu Joseph joue chez nous. Non, on est tous, pour moi, on est tous de même niveau. Ceux qui sont au niveau supérieur sont directeurs du repêchage ou assistant directeur général avec responsable du repêchage amateur. Mais non, nous, il n'y a pas de hiérarchie. S'il y en a une, c'est parce que je commence à être plus vieux que les autres, puis ils regardent mes cheveux blancs et ils disent « C'est le fun de travailler avec toi, Michel. »
Mais une petite dernière, Michel, avant de te laisser aller, mais t'as piqué ma curiosité. Comment on passe de directeur d'école à dépisteur pour le Lightning de Tampa Bay? Entre les deux, il doit bien se passer quelque chose d'intéressant.
Je veux dire, il faut toujours avoir été dans le hockey. J'ai joué mon hockey universitaire avec l'Université de Trois-Rivières. J'ai été entraîneur 1 an avec eux. Ensuite, je suis allé travailler à l'Université d'Ottawa où j'étais engagé comme coordinateur de programme sportif. Et après une année, on m'a demandé de prendre charge du DG, ce que j'ai fait. Puis le reste, c'est tous les contacts que tu as. Je veux dire, les premières années, les scientifiques de hockey au Québec, les Gaston Marcotte, Pelcha, Tifo, j'ai travaillé avec eux autres dans les écoles de hockey. Puis je n'ai jamais cessé de travailler dans les écoles de hockey puis d'être soit entraîneur-chef ou assistant entraîneur ou dépisteur. Le reste, c'est des contacts.
Okay.
Des contacts. Puis là, après ça, tu as le choix à faire. T'sais, je laisse-tu mon emploi sécurisé avec ma famille pour faire du hockey. Tant que tu es au niveau inférieur, tu es comme un joueur de hockey. Si le gars n'est pas dans la Ligue East Coast, il ne fait pas un gros salaire, sa femme est mieux de travailler un petit peu, ben c'est pareil. Là, tu as le choix entre directeur d'école avec un bon salaire, des bénéfices. Puis être dépisteur, il y a une bonne différence, sérieusement.
Hey, Michel, sincèrement, là, c'est vraiment, vraiment intéressant de te parler. Merci beaucoup d'avoir pris quelques temps pour nous. Et encore une fois, félicitations pour votre deuxième Coupe Stanley en 2 ans. C'est vraiment spectaculaire.
Vous êtes gentils, messieurs, puis une bonne journée à vous et à vos auditeurs. Okay.
Bonne journée, merci
mais là,
beaucoup.
Laissez la chance aux autres l'an prochain.
Ouais.
J'espère que non.
Merci beaucoup, Michel Boucher, dépisteur du Lightning de Tampa Bay. Au Québec, pour le Québec et les Maritimes, vraiment, c'est un bout de la job qu'on connaît un peu moins. Mais maudit que c'est intéressant. J'aurais été capable de jaser longtemps avec Michel.
C'est une job fascinante. Là. Et puis, c'est des gens qui sont obligés d'aimer conduire.
Mais des fois,
ils avalent l'asphalte dans une année.
Ça doit être capoté.
Ils sont rarement chez eux. Puis ils ont souvent le même menu au souper.
Tu fais ça par passion. Mais tu fais ça par passion.
Absolument.
Puis on pense des fois que c'est bien complexe aussi, puis tu sais, je dis pas que c'est simple, là, mais tu sais, on essaie de s'imaginer là, les statistiques avancées, les affaires. Ce que Michel il dit, c'est si le joueur il a un bon sens de hockey, puis qu'il a du cœur, puis il est travaillant, jeune, il va l'être vieux. Puis c'est comme ça dans la vie en général. Là, si t'as un bon fond, tu vas finir par être une bonne personne. Oh, ouais. Peu importe les obstacles qui t'arrivent dans la vie, puis les défis, puis comment tu décides de les affronter. Puis si à la base, là, t'as toujours été paresseux, t'as toujours pensé que c'était la faute des autres, pourquoi ça changerait? Mm. Tu sais, ça nous ramène vraiment à la base. Super, super, super intéressant.